centralizētais eksāmens franču valodā, optimālais mācību satura apguves līmenis.
Devoir de compréhension orale. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
Les Américains ont bien de la chance. En plus de Noël et du Nouvel An, ils ont Thanksgiving. Avec son repas en famille autour de sa traditionnelle dinde farcie, Thanksgiving est considéré comme une fête aussi importante que Noël aux États-Unis et au Canada. Mais quelle est l'histoire de cette fête? Que signifie-t-elle? Et pourquoi ne se célèbre-t-elle pas à la même date au Canada et aux États-Unis d'Amérique? C'est au premier temps de la colonisation du continent américain par les colons européens, au XVIIe siècle, qu'il faut remonter pour comprendre cette fête si particulière. En 1620, le Mayflower, un bateau venu d'Europe, accoste dans une zone inconnue qui deviendra beaucoup plus tard la ville de Plymouth, dans le nord des États-Unis actuels. À bord des pèlerins appartenant à la secte des Puritains. Soumis à des persécutions en raison de leur confession protestante, ils espèrent pouvoir vivre leur foi librement. Mais ils sont arrivés en plein hiver, au mois de décembre 1620, et ne sont ni de grands agriculteurs, ni de grands chasseurs. Au printemps 1621, la moitié de ces pèlerins sont morts. Quand le printemps arrive, les survivants comprennent qu'ils doivent se constituer des réserves pour survivre au prochain hiver. Or la terre, le climat, les plantes, tout leur semble hostile. Et c'est une tribu d'Amérindiens, les Wampanoag, qui vont leur permettre de survivre en leur enseignant la chasse et la pêche, et surtout en leur apprenant les bienfaits des plantes et à récolter le maïs. Sans les Wampanoag, les pèlerins auraient sans doute tous péri, comme ce fut le cas de bien d'autres à l'époque. Le gouverneur de la colonie, William Bradford, décida alors de proclamer un jour de remerciement et d'action de grâce pour remercier Dieu de leur avoir donné une terre finalement si accueillante avec des indigènes si serviables. Les pèlerins partagèrent alors cette célébration avec leurs voisins indiens et ceux-ci apportèrent alors des dindes à rôtir. Selon la légende, Thanksgiving, qui veut dire littéralement en anglais « merci pour le don », est né ce jour-là, à l'aube du deuxième hiver en Amérique des colons du Mayflower en 1621. Pour d'autres, l'origine remonte à 1623. En raison de la sécheresse qui a réduit les récoltes, le même gouverneur Bradford proclame une journée de jeûne et de prière. La pluie vient arroser les champs et sauve ainsi la colonie d'un grand malheur. Bradford annonce alors un jour de remerciement à Dieu. Cette deuxième explication plus tardive semble avoir l'avantage pour certains de retirer les Amérindiens de l'équation, ce qui entache d'autant sa crédibilité. Ce qui est sûr, c'est que cette tradition ne s'est vraiment ancrée dans les coutumes américaines qu'en 1863, lorsque le président Lincoln désigne ce jour, le quatrième jeudi de novembre, comme une fête nationale. En fait, Thanksgiving est avant tout la survivance d'une vieille coutume païenne, la célébration de la fin des récoltes ou des vendanges, que l'on retrouve sous différents noms dans toutes les cultures du monde. C'est pour ça qu'au Canada, on célèbre Thanksgiving le second lundi d'octobre, date à laquelle les récoltes sont achevées, puisqu'étant plus au nord, l'hiver arrive ici plus vite. Aux États-Unis, on fêtera Thanksgiving le 4e jeudi de novembre. La tradition nord-américaine veut qu'on se retrouve en famille pour manger une dinde farcie accompagnée d'une purée de pommes de terre, de patates douces, d'une gelée de canneberge et une tarte à la citrouille. D'ailleurs, les Américains qui mangent de la dinde sont si nombreux que cette journée est également appelée le jour de la dinde, Turkey Day.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
Les Américains ont bien de la chance. En plus de Noël et du Nouvel An, ils ont Thanksgiving. Avec son repas en famille autour de sa traditionnelle dinde farcie, Thanksgiving est considéré comme une fête aussi importante que Noël aux États-Unis et au Canada. Mais quelle est l'histoire de cette fête? Que signifie-t-elle? Et pourquoi ne se célèbre-t-elle pas à la même date au Canada et aux États-Unis d'Amérique? C'est au premier temps de la colonisation du continent américain par les colons européens, au XVIIe siècle, qu'il faut remonter pour comprendre cette fête si particulière. En 1620, le Mayflower, un bateau venu d'Europe, accoste dans une zone inconnue qui deviendra beaucoup plus tard la ville de Plymouth, dans le nord des États-Unis actuels. À bord des pèlerins appartenant à la secte des Puritains. Soumis à des persécutions en raison de leur confession protestante, ils espèrent pouvoir vivre leur foi librement. Mais ils sont arrivés en plein hiver, au mois de décembre 1620, et ne sont ni de grands agriculteurs, ni de grands chasseurs. Au printemps 1621, la moitié de ces pèlerins sont morts. Quand le printemps arrive, les survivants comprennent qu'ils doivent se constituer des réserves pour survivre au prochain hiver. Or la terre, le climat, les plantes, tout leur semble hostile. Et c'est une tribu d'Amérindiens, les Wampanoag, qui vont leur permettre de survivre en leur enseignant la chasse et la pêche, et surtout en leur apprenant les bienfaits des plantes et à récolter le maïs. Sans les Wampanoag, les pèlerins auraient sans doute tous péri, comme ce fut le cas de bien d'autres à l'époque. Le gouverneur de la colonie, William Bradford, décida alors de proclamer un jour de remerciement et d'action de grâce pour remercier Dieu de leur avoir donné une terre finalement si accueillante, avec des indigènes si serviables. Les pèlerins partagèrent alors cette célébration avec leurs voisins indiens, et ceux-ci apportèrent alors des dindes à rôtir. Selon la légende, Thanksgiving, qui veut dire littéralement en anglais « merci pour le don », est né ce jour-là, à l'aube du deuxième hiver en Amérique des colons du Mayflower en 1621. Pour d'autres, l'origine remonte à 1623. En raison de la sécheresse qui a réduit les récoltes, le même gouverneur Bradford proclame une journée de jeûne et de prière. La pluie vient arroser les champs et sauve ainsi la colonie d'un grand malheur. Bradford annonce alors un jour de remerciement à Dieu. Cette deuxième explication plus tardive semble avoir l'avantage pour certains de retirer les Amérindiens de l'équation, ce qui entache d'autant sa crédibilité. Ce qui est sûr, c'est que cette tradition ne s'est vraiment ancrée dans les coutumes américaines qu'en 1863, lorsque le président Lincoln désigne ce jour, le 4e jeudi de novembre, comme une fête nationale. En fait, Thanksgiving est avant tout la survivance d'une vieille coutume païenne, la célébration de la fin des récoltes, ou des vendanges, que l'on retrouve sous différents noms dans toutes les cultures du monde. C'est pour ça qu'au Canada, on célèbre Thanksgiving le second lundi d'octobre, date à laquelle les récoltes sont achevées, puisqu'étant plus au nord, l'hiver arrive ici plus vite. Aux États-Unis, on fêtera Thanksgiving le 4e jeudi de novembre. La tradition nord-américaine veut qu'on se retrouve en famille pour manger une dinde farcie accompagnée d'une purée de pommes de terre, de patates douces, d'une gelée de canneberge et une tarte à la citrouille. D'ailleurs, les Américains qui mangent de la dinde sont si nombreux que cette journée est également appelée le jour de la dinde, Turkey Day.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
Inventé par Erno Rubik en 1974, le Rubik's Cube s'est rapidement répandu sur toute la planète. Il s'agit d'un casse-tête géométrique à trois dimensions, composé extérieurement de 26 éléments. Le but du jeu est, après avoir mélangé les six faces, de manipuler le cube pour tenter de lui rendre son apparence d'origine avec les six faces de couleur unies. Le nombre de positions différentes est supérieur à 43 trillions. Ainsi, en passant en revue le milliard de combinaisons différentes par seconde, il faudrait plus de 1370 ans pour toutes les épuiser. On peut tenter de chercher la solution au hasard, mais si l'on admet qu'un être humain peut passer en revue en moyenne une combinaison par seconde, il lui faudrait, en moyenne, un temps 100 fois supérieur à l'âge actuel de l'univers pour réussir à trouver toutes les combinaisons du cube. La légende veut qu'Erno Rubik lui-même y ait passé plus d'un mois. C'est pourquoi il existe différentes techniques consistant à réaliser des séquences comportant une dizaine de mouvements. Le Rubik's Cube est un support pédagogique très intéressant pour l'enseignement des mathématiques, en particulier pour la théorie des groupes. L'image du cube est reprise dans un nombre de graphismes évoquant les années 1980, articles, vêtements, disques, etc., faisant de lui un des symboles culturels de cette décennie. Ainsi, le Rubik's Cube fait plusieurs apparitions dans la série animée Les Simpsons, par exemple. Pour célébrer le 40e anniversaire de ce casse-tête, le moteur de recherche Google a placé sur sa page d'accueil une animation permettant aux internautes de manipuler virtuellement le célèbre cube. Le succès du Rubik's Cube a donné naissance à plusieurs variantes, par exemple le cube calendrier, décoré de sorte qu'il soit possible de former n'importe quelle association de jours et de dates sur une des faces, aussi bien qu'à de nombreuses références, comme celui de Malou Moulis, « La vie est un énorme Rubik's Cube sur lequel nous sautons de facette en facette dans le but d'en ressortir une compréhension plus élargie du monde et de nous-mêmes. »
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
Inventé par Erno Rubik en 1974, le Rubik's Cube s'est rapidement répandu sur toute la planète. Il s'agit d'un casse-tête géométrique à trois dimensions, composé extérieurement de 26 éléments. Le but du jeu est, après avoir mélangé les six faces, de manipuler le cube pour tenter de lui rendre son apparence d'origine avec les six faces de couleur unies. Le nombre de positions différentes est supérieur à 43 trillions. Ainsi, en passant en revue le milliard de combinaisons différentes par seconde, il faudrait plus de 1370 ans pour toutes les épuiser. On peut tenter de chercher la solution au hasard, mais si l'on admet qu'un être humain peut passer en revue en moyenne une combinaison par seconde, il lui faudrait, en moyenne, un temps 100 fois supérieur à l'âge actuel de l'univers pour réussir à trouver toutes les combinaisons du cube. La légende veut qu'Erno Rubik lui-même y ait passé plus d'un mois. C'est pourquoi il existe différentes techniques consistant à réaliser des séquences comportant une dizaine de mouvements. Le Rubik's Cube est un support pédagogique très intéressant pour l'enseignement des mathématiques, en particulier pour la théorie des groupes. L'image du cube est reprise dans un nombre de graphismes évoquant les années 1980, articles, vêtements, disques, etc., faisant de lui un des symboles culturels de cette décennie. Ainsi, le Rubik's Cube fait plusieurs apparitions dans la série animée Les Simpsons, par exemple. Pour célébrer le 40e anniversaire de ce casse-tête, le moteur de recherche Google a placé sur sa page d'accueil une animation permettant aux internautes de manipuler virtuellement le célèbre cube. Le succès du Rubik's Cube a donné naissance à plusieurs variantes, par exemple le cube calendrier, décoré de sorte qu'il soit possible de former n'importe quelle association de jours et de dates sur une des faces, aussi bien qu'à de nombreuses références, comme celui de Malou Moulis, « La vie est un énorme Rubik's Cube sur lequel nous sautons de facette en facette dans le but d'en ressortir une compréhension plus élargie du monde et de nous-mêmes. »
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 3. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
On change complètement de sujet maintenant, vacances ou pas, les délais sont toujours de plus en plus longs pour passer son permis de conduire. En attendant, on prend des leçons longtemps ça coûte cher. Conclusion, de plus en plus d'apprentis conducteurs utilisent des voitures à double commande. On peut en louer sans permis, on peut les conduire à côté d'un proche quand qui a au moins, lui, 3 ans de permis. À Caen, Axel Cariou, Xavier Tobie.
Après 26 heures de conduite dans une auto-école classique, Alban ne se sent pas encore prêt à passer son permis. Alors depuis quelques jours, il a opté pour une nouvelle solution, louer une voiture à double commande. Et c'est Odile, sa maman, qui joue aux monitrices.
Là, on a repris 5 leçons en dehors du forfait de l'auto-école. On en a eu pour 175 euros, ça fait 35 euros la leçon. L'autre jour, on a conduit 2 heures et j'en ai eu pour 15 euros. Ah, là, tu aurais dû rétrograder, cher ami.
Ça me permet d'avoir plus confiance en moi parce que j'ai pas un moniteur qui est froid et que je connais pas, parce que des fois il y a des moniteurs qui parlent limite pas, alors là j'ai ma mère donc je suis plus rassuré.
Et la formule connaît un vrai succès. Ce loueur officie depuis un an et déjà 900 candidats lui ont fait appel, séduits par la grande flexibilité du système.
Quand j'étais en auto-école, j'ai dû attendre un mois pour avoir mon premier rendez-vous et en plus c'était un par semaine. Je pense que c'est pas suffisant pour progresser rapidement. Là, je conduis tous les jours.
Les véhicules sont alloués 24 heures sur 24. Seule contrainte, l'accompagnateur doit avoir au moins 3 ans de permis. Il ne s'agit pas de remplacer l'auto-école, mais de parfaire son expérience.
En école classique, le taux de réussite moyen en France est de 55%. Donc si on fait de la complémentarité avec un peu d'accompagnement, les taux dépassent les 80.
D'abord méfiante face à cette nouvelle concurrence, certaines auto-écoles y dirigent désormais des élèves pour se délester. Rappelons que dans plusieurs régions, passer le permis peut prendre plus de 10 mois.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
On change complètement de sujet maintenant, vacances ou pas, les délais sont toujours de plus en plus longs pour passer son permis de conduire. En attendant, on prend des leçons longtemps ça coûte cher. Conclusion, de plus en plus d'apprentis conducteurs utilisent des voitures à double commande. On peut en louer sans permis, on peut les conduire à côté d'un proche qui a au moins, lui, 3 ans de permis. À Caen, Axel Cariou, Xavier Tobie.
Après 26 heures de conduite dans une auto-école classique, Alban ne se sent pas encore prêt à passer son permis. Alors depuis quelques jours, il a opté pour une nouvelle solution, louer une voiture à double commande. Et c'est Odile, sa maman, qui joue aux monitrices.
Là, on a repris 5 leçons en dehors du forfait de l'auto-école. On en a eu pour 175 euros, ça fait 35 euros la leçon. L'autre jour, on a conduit 2 heures et j'en ai eu pour 15 euros. Ah, là, tu aurais dû rétrograder, cher ami.
Ça me permet d'avoir plus confiance en moi parce que j'ai pas un moniteur qui est froid et que je connais pas, parce que des fois il y a des moniteurs qui parlent limite pas, alors là j'ai ma mère donc je suis plus rassuré.
Et la formule connaît un vrai succès. Ce loueur officie depuis un an et déjà 900 candidats lui ont fait appel, séduits par la grande flexibilité du système.
Quand j'étais en auto-école, j'ai dû attendre un mois pour avoir mon premier rendez-vous et en plus c'était un par semaine. Je pense que c'est pas suffisant pour progresser rapidement. Là, je conduis tous les jours.
Les véhicules sont alloués 24 heures sur 24. Seule contrainte, l'accompagnateur doit avoir au moins 3 ans de permis. Il ne s'agit pas de remplacer l'auto-école, mais de parfaire son expérience.
En école classique, le taux de réussite moyen en France est de 55%. Donc si on fait de la complémentarité avec un peu d'accompagnement, les taux dépassent les 80.
D'abord méfiante face à cette nouvelle concurrence, certaines auto-écoles y dirigent désormais des élèves pour se délester. Rappelons que dans plusieurs régions, passer le permis peut prendre plus de 10 mois.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir.
Fin de l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.